Intermède 2. Hymne. Hymne taillait soigneusement le bois sur le côté du petit bloc. Il l'éleva à la lueur des sphères posées près de son banc et saisit ses lunettes par la monture pour les rapprocher de ses yeux. Quelle magnifique invention, les lunettes. Vivre, ça revenait à être un fragment du cosmère en train de se découvrir lui-même. Comment pouvait-il découvrir correctement les choses s'il n'y voyait rien? L'Azéen qui avait créé ces engins était mort depuis longtemps, et Hymne avait soumis une proposition pour qu'on le considère comme l'un des glorieux défunts. Hymne baissa le morceau de bois et continua à le sculpter, taillant soigneusement le devant afin de former une courbe. Certains de ses collègues achetaient leurs formes, les pièces de bois autour desquelles un cordonnier façonnait ses chaussures, à des menuisiers. Mais on lui avait appris comment fabriquer les siennes. C'était l'ancienne méthode, celle que l'on appliquait depuis des siècles. Si l'on faisait quelque chose d'une certaine manière depuis si longtemps, il y avait certainement une bonne raison. Derrière lui, dans l'ombre, s'alignaient les casiers plongés d'une cordonnerie d'où des dizaines de chaussures pointaient leur nez comme des anguilles. C'étaient là des chaussures d'essai, destinées à estimer la taille, choisir les matériaux et décider du style afin qu'il puisse fabriquer la chaussure parfaitement adaptée aux pieds et au caractère d'un individu. Un essayage pouvait durer longtemps, lorsqu'on s'y prenait correctement. Quelque chose bougea dans la pénombre, sur sa droite. Hymne jeta un coup d'œil dans cette direction sans changer de position. Le spren venait plus fréquemment depuis quelque temps, sous forme de petites taches lumineuses, comme celles que dégageait un morceau de cristal traversé par un rayon de soleil. Il n'identifiait pas sa nature, car il n'en avait encore jamais vu de semblable. Le spren s'avança sur la surface de l'établi, se faufilant plus près. Lorsqu'il s'arrêta, de la lumière en sortit furtivement, prenant la forme de petites plantes qui poussaient ou sortaient de leur terrier. Lorsqu'il bougea de nouveau, elles se retirèrent. Hymne se remit à sculpter. « Ce sera pour fabriquer une chaussure. » La boutique était silencieuse le soir, à l'exception du grattement de son couteau contre le bois. « Chaussure ?» demanda une voix. Elle ressemblait à celle d'une jeune femme douce, possédant une sorte de musicalité carillonnante. « Oui, mon ami, » répondit-il, « une chaussure pour de jeunes enfants. Il m'en faut de plus en plus ces jours-ci. » « Chaussures, » répéta le spren, « pour des enfants, des petites gens. » Hymne fit tomber des copeaux de bois de l'établi pour les balayer plus tard, puis y posa la forme près du spren. Ce dernier eut un mouvement de recul, pareil à un reflet dans un miroir, translucide, guère plus qu'un jeu de lumière. Il retira la main et patienta. Le spren s'avança doucement, hésitant comme un crémillon qui se faufile hors de sa crevasse après une tempête. Quand il s'arrêta, la lumière s'échappa de lui sous forme de pouces minuscules. Quel étrange spectacle! « Tu es une expérience intéressante, mon ami, » déclara Hymne, tandis que le jeu de lumière s'avançait jusqu'à la forme elle-même. « Et je suis honoré d'y participer. »« Je, » répondit le spren, « je. » Sa silhouette trembla soudain puis s'intensifia, comme une lumière que l'on concentrait. « Il arrive. » Hymne se redressa, soudain nerveux. Quelque chose bougea dehors dans la rue. Était-ce lui, le guetteur au manteau militaire? Mais non, ce n'était qu'un enfant qui passait la tête par la porte ouverte. Hymne sourit, ouvrit son tiroir de sphère et laissa échapper davantage de lumière dans la pièce. L'enfant eut un mouvement de recul, comme le spren un peu plus tôt. Le spren avait disparu. Il le faisait toujours quand d'autres approchaient. « N'aie pas peur !» déclara Hymne en se rasseyant sur son tabouret. « Viens, laisse-moi te regarder. » Le jeune gamin des rues crasseux passa de nouveau la tête par l'ouverture. Il ne portait qu'un pantalon en lambeaux mais pas de chemise, ce qui était toutefois chose courante ici, en Irie, où les jours comme les nuits étaient généralement tièdes. Les pieds du pauvre enfant étaient sales et éraflés. « Eh bien, » reprit Hymne, « on ne peut pas te laisser comme ça. Viens, jeune homme, installe-toi. trouvons quelque chose pour habiller tes pieds. » Il tira l'un de ses tabourets les plus petits.
« Les autres racontent que vous donnez gratis, » répondit le garçon sans bouger.
« Ils se trompent, » répliqua Im. « Mais je crois que tu trouveras mon tarif tout à fait supportable. »«
J'ai pas de sphère. »«
Je n'ai pas besoin de sphère. C'est ton histoire qui sera mon prix. Tes expériences. J'aimerais les entendre. »
« Les autres m'ont dit que vous étiez bizarre, » affirma le garçon,
qui entra enfin dans la boutique.
« Ils avaient raison, » répondit Im en tapotant le tabouret.
Le gamin approcha timidement, s'efforçant de masquer sa boiterie. Il était irial, bien que la crasse assombrisse sa peau dorée et ses cheveux qu'il était également. La peau l'était moins. Il fallait de la lumière pour la distinguer correctement, mais les cheveux, sans aucun doute. C'était la caractéristique de son peuple. Im fit signe à l'enfant de lever son pied valide, puis sortit un gant de toilette qui l'humidifia pour nettoyer la crasse. Il ne comptait pas faire d'essayage sur un pied aussi sale. D'un geste fort peu discret, le garçon recula son pied boiteux comme pour cacher qu'il était enveloppé d'un chiffon.
« Alors, » reprit Im, « ton histoire. »«
Vous êtes vieux, » rétorqua le garçon. « Plus vieux que tous les gens que je connais. Vieux comme un grand-père. Vous devez déjà tout savoir sur tout. Pourquoi vous voudriez m'entendre parler ?»«
C'est une de mes excentricités, » répondit Im. « Allez, je t'écoute. »
Le garçon soupira, mais se mit à parler, brièvement. Ce n'était pas rare. Il voulait garder son histoire pour lui-même. Lentement, avec des questions prudentes, Im lui soutira son histoire. Le garçon était le fils d'une prostituée, qui l'avait chassé dès qu'il avait été en âge de se débrouiller seul. Ça remontait à 3 ans, pensait-il. Il devait en avoir 8 à présent. Tout en l'écoutant, Im nettoya le premier pied, puis en coupa et en lima les ongles. Lorsqu'il en eut fini, il lui fit signe de tendre l'autre. Le garçon le souleva à contre-cœur. Im dénoua le chiffon et découvrit une vilaine coupure sur la plante. Elle était déjà infectée et grouillait de sprènes de pourriture, minuscules points rouges. Im hésita.
« Fallait que je trouve des chaussures, »
déclara le gamin en regardant de l'autre côté.
« Je peux pas continuer sans. »
L'entaille était irrégulière.
« Il s'est peut-être fait ça en grimpant par-dessus une clôture, » songea Im.
Le garçon l'étudia, feignant la nonchalance. Une plaie comme celle-ci devait ralentir terriblement un gosse des rues, ce qui pouvait facilement provoquer sa mort. Im ne le savait que trop bien. Il leva les yeux vers le garçon et nota l'inquiétude qui assombrissait ses petits yeux. L'infection était remontée le long de la jambe.
« Mon ami, chuchota Im, je crois que je vais avoir besoin de ton aide.
Quoi ? »
demanda le gamin.
« Rien,
répondit Im, plongeant la main dans le tiroir de sa table. La lumière qui s'en échappait provenait simplement de 5 brisures de diamants. Tous les gamins des rues venus le trouver les avaient vus. Jusqu'à présent, Im ne s'était fait voler que 2 fois. Il plongea la main plus profondément et ouvrit un compartiment caché du tiroir pour en tirer une sphère plus puissante, un brôme, puis s'empressa d'en cacher la lumière d'une main, tandis que de l'autre, il cherchait de l'antiseptique. Le médicament n'allait pas suffire, alors que le garçon ne pouvait pas éviter d'utiliser son pied. Rester allongé des semaines pour guérir, en appliquant constamment des médicaments coûteux, impossible pour un gamin qui se battait chaque jour pour trouver à manger. Im retira les mains, dont l'une abritait une sphère. Pauvre petit. Il devait avoir atrocement mal. Le garçon, fiévreux, aurait sans doute dû rester au lit. Mais tous les gamins des rues savaient comment mâcher de l'écorce de schiste pour demeurer alerte et éveillé plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Non loin de là, le sprène de lumière étincelante sortit de sous une pile de carrés de cuir. Im appliqua le médicament, puis le reposa et souleva le pied du garçon en fredonnant tout bas. La lumière disparut dans son autre main. Les sprènes de pourriture s'enfuirent de la blessure. Quand Im retira la main, l'entaille s'était recouverte d'une croûte, et retrouvait sa couleur normale, tout signe d'infection ayant disparu. Jusqu'à présent, Im n'avait utilisé qu'une poignée de fois ce don, en le faisant toujours passer pour l'effet d'un médicament. Ça ne ressemblait à rien dont il ait entendu parler. Peut-être était-ce pour cette raison qu'il l'avait reçu, afin que le Cosmer puisse en faire l'expérience.
« Tiens, » déclara le garçon, « je me sens nettement mieux. »«
J'en suis ravi, » répondit Im, qui rangea la sphère et le médicament dans son tiroir. Le spren s'était retiré. « Voyons si j'ai quelque chose qui taille. » Il entreprit de lui faire essayer des chaussures. En temps ordinaire, il renvoyait le client après l'essayage et fabriquait une paire de chaussures parfaites. Malheureusement, pour cet enfant-ci, il allait devoir se servir de chaussures déjà prêtes. Il avait vu trop de gamins des rues ne jamais revenir chercher leur père, le laissant s'inquiéter et s'interroger. Leur était-il arrivé quelque chose? Avait-il simplement oublié? Ou leur méfiance naturelle avait-elle pris le dessus? Par chance, il disposait de plusieurs paires bien solides qui conviendraient peut-être à ce garçon.
« Il me faut plus de cuir de porc traité, » songea-t-il en griffonnant une note.
Les enfants ne soignaient pas correctement leurs chaussures. Il avait besoin de cuir qui vieillissait bien, même quand on ne s'en occupait pas.
« Vous allez vraiment me donner une paire de chaussures ?» reprit le gamin. « Pour rien ?»«
Rien d'autre que ton histoire. » répondit Im en glissant une autre chaussure d'essai au pied du garçon. Il avait renoncé à apprendre aux gosses des rues à porter des chaussettes.
« Pourquoi ça ?»«
Parce que, » rétorqua Im, « toi et moi ne faisons qu'un. »«
Un quoi ?»«
Un seul être, » expliqua Im, qui reposa cette chaussure et en prit une autre. Il y a bien longtemps, il n'existait que l'unique. L'unique savait tout, mais n'avait rien vécu, si bien qu'il devint une multitude, nous, les gens. L'unique, qui est à la fois masculin et féminin, l'a fait afin de vivre toute chose.
L'unique? Vous voulez dire Dieu?
Si tu souhaites le formuler ainsi, répondit Im. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Je n'accepte aucun Dieu. Tu devrais n'en accepter aucun non plus. Nous sommes Irial et faisons partie du long chemin, dont ce pays est la quatrième contrée.
Vous parlez comme un prêtre.
N'accepte pas de prêtre non plus, riposta Im. Ils viennent d'autres terres pour nous évangéliser. Les Irial n'ont pas besoin de sermons, seulement d'expériences. Puisque chaque expérience est différente, elle apporte la complétude. Au bout du compte, quand la septième contrée sera atteinte, tout sera réintégré, et nous redeviendrons uniques.
« Alors vous et moi ?» s'étonna le gamin. « On est pareil ?»
Oui, deux esprits d'un seul être qui vit différentes vies.
« C'est stupide !»
« Simple question de perspective, » s'étonna Im, qui recouvrit de poudre les pieds du garçon, avant d'y glisser une paire de chaussures d'essai. « S'il te plaît, marche un moment avec celle-ci. » Le garçon le regarda bizarrement, mais obéit et fit quelques pas. Il ne boitait plus. Perspective, répéta Im, qui leva la main et remua les doigts. De tout près, les doigts d'une main peuvent sembler individuels et isolés. En effet, le pouce croit peut-être qu'il a très peu en commun avec le petit doigt. Mais avec la perspective adéquate, on comprend que les doigts font partie de quelque chose de bien plus grand, qu'ils sont un, en réalité. Le gamin parut songeur. Une partie de tout ça le dépassait, sans doute. Il faut que je parle de manière plus simple et...
« Pourquoi c'est vous qui avez le droit d'être le doigt, avec la bague très chère ?»
répondit le garçon en marchant dans l'autre sens.
« Alors que je suis le petit doigt avec un ongle cassé ?»
Im sourit. « Je sais que ça paraît injuste, mais il ne peut pas y avoir d'injustice, car nous sommes tous identiques au bout du compte. Et puis... je n'ai pas toujours possédé cette boutique.
Ah bon ?
Non. Je crois que tu serais surpris d'apprendre d'où je viens. Rassieds-toi, s'il te plaît. Le garçon se réinstalla.
Il marche super bien, ce médicament. Mais alors super bien !
Im lui retira les chaussures et se fonda sur la poudre qui s'était effacée par endroits pour estimer dans quelle mesure la chaussure était bien ajustée. Il prit une paire de chaussures préfabriquées, puis y travailla un moment en les pliant entre ses mains. Il allait falloir en garnir une d'une semelle pour le pied blessé, mais un modèle qui se détacherait au bout de quelques semaines, quand la plaie serait guérie.
« Tout ce que vous me racontez, » reprit le garçon, « je trouve ça débile. Enfin, si on est tous la même personne, on ne devrait pas déjà tous le savoir ?»«
En tant qu'unique, nous connaissons la vérité, » répondit Im, « mais en tant que multitude, nous avons besoin d'ignorance. Si nous existons dans une si grande variété, c'est pour faire l'expérience de toutes sortes de pensées. Par conséquent, certains d'entre nous doivent savoir et d'autres non, de la même manière que certains doivent être riches et d'autres pauvres. » Il travailla encore un peu sur la chaussure.
Davantage de personnes savaient tout ça, à une époque. On n'en parle pas autant qu'il le faudrait.
Tiens, voyons si celles-ci te vont.
Il tendit les chaussures au garçon, qui les enfila et noua les lacets.
Ta vie est peut-être désagréable, commença Im.
Désagréable ?
D'accord, totalement atroce, mais elle s'améliorera, jeune homme. Je te le promets.
Je croyais,
objecta le garçon en tapant son pied valide par terre pour tester les chaussures,
que vous alliez me dire que ma vie est atroce, mais que c'est pas grave au bout du compte parce qu'on va tous finir au même endroit.
C'est exact, acquiesça Im. Mais ce n'est pas très réconfortant pour l'instant, n'est-ce pas ?
Non.
Im revint à sa table de travail. Essaie de ne pas trop marcher sur ton pied blessé, si tu peux l'éviter. Le gosse des rues se dirigea vers la porte avec un empressement soudain, comme s'il était impatient de filer avant qu'Im ne change d'avis et ne lui reprenne les chaussures. Mais il s'arrêta sur le pas de la porte.
Si on est tous la même personne qui essaie différentes vies, lança le garçon. Vous n'avez pas besoin de donner des chaussures gratis, vu que ça n'a pas d'importance.
Tu ne te frapperais pas toi-même au visage, n'est-ce pas? Si j'améliore ta vie, j'améliore la mienne par la même occasion.
C'est complètement débile, répondit le garçon. Moi, je crois que vous êtes simplement quelqu'un de gentil.
Il se faufila dehors sans ajouter un mot.
Im sourit et secoua la tête. Enfin, il se remit au travail sur sa forme.
Le spren réapparut. « Merci, lui dit Im, pour ton aide. » Il ignorait pourquoi il était capable de faire ces choses-là, mais il savait que le spren était impliqué.
« Il est toujours là, » chuchota le spren.
Im leva les yeux vers le pas de la porte qui donnait sur la rue plongée dans la nuit. Le gamin était-il là ? Un bruissement s'éleva derrière lui. Il sursauta et se retourna vivement. La salle de travail était un endroit rempli de recoins sombres et de casiers. Avait-il entendu un rat ? Peut-être. Pourquoi la porte de la salle du fond où Im dormait était-elle ouverte ? Il la laissait généralement fermée. Une ombre y bougea dans le noir.
« Si vous venez pour les sphères, » lança-t-il, tremblant, « je n'ai que 5 brisures ici. »
Nouveau bruissement. L'ombre se détacha de l'obscurité et se précisa pour devenir un homme à la peau sombre de Makabaki, à l'exception d'un croissant pâle sur la joue. Il portait un uniforme noir et argent, qui n'appartenait à aucune armée qui me reconnaisse, des gants épais, prolongés par des crispins.
« J'ai dû regarder très attentivement, » déclara l'homme, « pour découvrir votre indiscrétion. »«
Je... » balbutia Im, « rien que 5 brisures. »«
Vous avez mené une vie irréprochable depuis votre jeunesse dissolue, » répondit l'homme d'une voix égale. « Un jeune homme fortuné qui buvait et faisait la fête en dépensant tout ce que ses parents lui avaient laissé. Ce n'est pas illégal. Le meurtre, si, en revanche... »
Im s'affaissa sur son tabouret.
Je ne savais pas. Je ne savais pas que ça la tuerait.
Du poison, répliqua l'homme en entrant dans la pièce, administré sous la forme d'une bouteille de vin.
Il m'avait dit que le millésime lui-même était un signe,
répondit Im. Qu'elle comprendrait que le message venait d'eux et qu'il signifiait qu'elle devait payer. J'avais tellement besoin d'argent. Pour manger, vous comprenez? Les gens des rues n'ont aucune clémence.
Vous avez été complice d'un meurtre, asséna l'homme en enfonçant davantage ses gants. D'abord une main, puis l'autre.
Il s'exprimait avec la même absence d'émotion que s'il parlait du temps.
Je ne savais pas,
insista Im, suppliant.
Vous êtes coupable malgré tout.
L'homme tendit la main sur le côté. Une arme s'y matérialisa à partir de la brume, puis tomba dans sa paume.
Une lame d'éclat? Quel genre d'agent de police était cela?
Im regarda fixement cette fabuleuse lame argentée. Puis, il se mit à courir. Il semblait avoir conservé des réflexes utiles de l'époque passée dans les rues. Il parvint à jeter une pile de morceaux de cuir vers l'homme et esquiva la lame lorsqu'elle le visa. Im sortit précipitamment dans la rue obscure et s'enfuit à toutes jambes en criant. Peut-être quelqu'un l'entendrait-il. Peut-être quelqu'un lui viendrait-il en aide. Personne ne l'entendit. Personne ne vint l'aider. Im était un vieil homme à présent. Le temps qu'il atteigne la première intersection, il était à bout de souffle. Il s'arrêta près de la vieille boutique du barbier, verrouillé, plongé dans le noir. Le petit Spren se déplaçait à ses côtés, jeu de lumière miroitant qui se déployait vers l'extérieur en formant un cercle. Magnifique.
« J'imagine, dit Im, haletant, que mon heure est venue. Puisse l'unique trouver ce souvenir agréable. »
Des pas claquèrent dans la rue derrière lui, de plus en plus proches.
« Non, chuchota le Spren. Flamme !»
Im plongea la main dans sa poche et en sortit une sphère. Pouvait-il, d'une manière ou d'une autre, s'en servir pour... L'épaule de l'agent de police plaqua Im contre le mur du barbier. Im gémit et lâcha la sphère. L'homme vêtu d'argent le retourna. Il ressemblait à une ombre dans la nuit, une silhouette se détachant sur le ciel noir.
« C'était il y a 40 ans, »
murmura Im.
« La justice ne connaît pas de terme. »
L'homme lui plongea la lame d'éclat dans la poitrine. L'expérience prit fin.